Les informations avec Anne-Laure Chouin. Bonsoir Anne-Laure.
Bonsoir Antoine, bonsoir à toutes et à tous. La polémique concernant la pollution au plomb suite à l'incendie de Notre-Dame ne s'éteint pas. On a appris ce matin le dépôt d'une plainte contre X par l'association environnementale Robin des Bois. Nous y reviendrons avec Antoine Marette. Autre polémique qui a la vie dure, la ratification du CETA par une majorité de députés LREM. Parmi eux, plusieurs ont vu leur permanence devenir la cible de dégradation. Dossier suivi par Rosalie Lafarge. Enfin, ce dossier-là aussi reste dans l'actualité cet été. Le plan social prévu par le groupe General Electric qui devrait faire à disparaître 1050 emplois en France. La CGT de General Electric présentait tout à l'heure un plan alternatif pour éviter ces licenciements. À l'étranger, nous irons en Russie où le dissident Alexei Navalny est reparti en prison quelques heures après avoir été hospitalisé, sans doute des suites d'un empoisonnement selon son avocate. En Écosse, Boris Johnson maintient qu'un Brexit avec un nouvel accord est possible. Enfin, à Beyrouth, un groupe de rock gay alternatif et critique de la religion est victime de la censure. Reportage à la fin de ce journal. Les autorités ont-elles tardé à réagir? Ont-elles manqué de transparence? Quoi qu'il en soit, une plainte contre X est désormais déposée par l'association Robin des Bois suite à la pollution au plomb entraînée par l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Plainte déposée vendredi auprès du procureur de Paris pour mise en danger de la personne d'autrui et non-assistance à personne en danger. Robin des Bois, cette association de défense de l'environnement, estime que la mairie de Paris, comme l'agence régionale de santé, comme le diocèse d'ailleurs, n'ont pas pris les mesures immédiatement nécessaires. Or, depuis l'incendie de la cathédrale, les taux de concentration importantes de plomb ont été relevés aux abords de l'édifice. Le chantier a été arrêté, une école fermée. Bonsoir Antoine Marette.
Bonsoir.
Le dossier n'est donc pas clos.
Effectivement, la plainte contre X de Robin des Bois relance ce dossier. L'association n'a pas été convaincue par les conclusions de l'agence régionale de santé. Celle-ci expliquait dans un communiqué deux semaines après l'incendie qu'aucune intoxication n'avait été signalée. Elle ajoutait que seules quelques zones très localisées avaient pu connaître une présence de plomb. Le porte-parole de Robin des Bois, Jackie Bonnemain, dénonce de l'intox.
L'agence régionale de santé sait que les effets de l'ingestion ou de l'inhalation de poussière de plomb peuvent être différés dans le temps et que les pathologies peuvent se déclarer plusieurs mois et plusieurs années après l'intoxication. Donc cet avis favorable, circulé, il n'y a rien à voir, est particulièrement malvenu et on l'explique par le fait que, sans aucun doute, au sein des services de l'État, des pressions diverses et contraires ont été exercées, notamment par le fait que le 17 avril, deux jours après la catastrophe, il a été claironné par les plus hautes autorités de l'État que la cathédrale devait être reconstruite d'ici 2024 et que l'assainissement de cette friche industrielle n'a pas été évoqué dans la planification des travaux.
Jackie Bonnemain se dit persuadé que l'ARS a sciemment minimisé les risques, également pour ne pas nuire aux différents intérêts économiques, notamment touristiques. Notre-Dame est le bâtiment le plus fréquenté en Europe et l'ARS, de son côté, ne réagit pas ce soir à ces accusations.
Antoine Marette, merci. L'enquête sur les attentats de novembre 2015 à Paris continue. On a appris en début d'après-midi que l'Allemagne avait remis aux autorités belges un homme de 39 ans, bosnien, suspecté d'avoir fourni des armes aux assaillants du Bataclan le 13 novembre. L'homme avait été interpellé fin juin. On n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant. Elles sont au moins 8 les permanences des députés LREM à avoir subi des dégradations ces derniers jours. Avant-hier, c'était à Perpignan, en marge d'une manifestation de gilets jaunes. Et cette nuit, dans l'Oise, où la permanence de Carole Bureau-Bonnard a été vandalisée, des œufs jetés sur le mur, de la paille déversée à l'entrée. Pour elle, comme pour ses collègues, l'argument est le même. On reproche à ses élus d'avoir voté pour la ratification du CETA, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Les précisions avec vous, Rosalie Lafarge.
Oui, il était dans sa permanence de Perpignan samedi, Romain Gros, quand il a entendu les vitres se briser et vu des manifestants essayer de mettre le feu.
Moi, dans ce que je me dis, il y a deux choses. D'abord, c'est l'effroi devant la fragilité de notre démocratie. Et la deuxième chose, c'est ma détermination, et j'espère la détermination de nombreux démocrates, à défendre la démocratie, à la faire vivre, à montrer qu'on est nombreux à s'accrocher et qu'on ne courbera pas les chines face aux barbares.
Lui a été visé par des gilets jaunes, quand d'autres ont été pris pour cible par des agriculteurs.
Des syndicalistes agricoles, FNSEAJA, sont venus murer ma permanence et inscrire des insultes.
Jean-Baptiste Moreau est député de la Creuse et agriculteur.
Quelle démocratie veut-on avec des parlementaires qui voteraient sous pression en fonction de la peur? Ce serait quand même dramatique pour la démocratie. Enfin, je veux dire, moi j'avais rencontré les syndicats agricoles il y a 3 semaines, je leur avais expliqué ma position et derrière on a quand même ce type de manifestation avec ce blocage qui en plus finit de radicaliser les agriculteurs qui sont dans des situations de détresse terribles et je trouve que les syndicats jouent là-dessus et c'est excessivement grave.
Des accusations réfutées par Étienne Gagneron, vice-président de la FNSEA, qui souligne tout de même l'exaspération compréhensible des agriculteurs.
Il y a une espèce de distorsion de concurrence permanente qui est organisée, qui interpelle tous les agriculteurs. C'est-à-dire que là, ils sont perdus. On leur demande des choses sur l'environnement, sur le bien-être animal, sur tous les sujets qui s'empilent les uns au bout des autres. Mais dans le même temps, on leur propose des produits qui sont construits dans des conditions complètement déplorables, qui arrivent sur le même marché. Et donc là, les agriculteurs, ils débranchent et ça, on peut le comprendre.
Comprendre la colère mais refuser la violence, ce responsable de la FNSEA l'assure. Le syndicat agricole ne plébiscite qu'une seule pression, la pression républicaine à travers le dialogue.
Merci Rosalie Lafarge. L'industrie française a décidément un problème avec ses repreneurs. On se souvient du fiasco d'Ascoval, puis de celui de Whirlpool. Évidemment, de la reprise d'Alstom par General Electric qui se solde finalement par 1050 suppressions d'emplois et ce malgré les assurances de Bercy qui avait autorisé la vente de ce fleuron à l'époque. Pour tenter d'éviter le plan social dans les différents sites du groupe, la CGT a proposé ce matin un plan B, soit 10 propositions alternatives. Bonsoir Lisa Guyenne.
Bonsoir.
Vous étiez ce matin à la présentation de ce plan.
Oui, un plan B élaboré avec des salariés et des experts mandatés par les syndicats pour tenter de sauvegarder l'usine de Belfort, alors que la direction compte dépenser 300 millions d'euros dans la restructuration. À la place, la CGT préconise d'investir 20 à 30 millions d'euros par an sur le site franc-comtois pour développer l'innovation, la recherche et le développement, proposer des formations aux salariés, bref, réinvestir à Belfort et lui rendre son autonomie par rapport à la maison mère. Karim Matoug est délégué CGT à Belfort.
C'est rendre l'autonomie à Belfort, c'est-à-dire par le passé, quand Belfort avait son autonomie de gestion sur les projets, on n'était pas sous tutelle de Baden ou des États-Unis, on était une entreprise très très profitable, quoi. On était considéré comme la vache à lait du groupe General Electric. Et depuis ce changement de stratégie et de politique d'entreprise, c'est là que les difficultés ont commencé à arriver.
Les syndicats accusent la direction américaine de vouloir lâcher la filiale française pour délocaliser là où la main-d'œuvre coûte moins cher. Quant à l'appui du gouvernement et l'engagement total dans la sauvegarde du site promis par le ministre de l'économie Bruno Le Maire vendredi dernier, Grégory Pastor, responsable CGT, n'y croit pas du tout.
Ascoval, Ford, General Electric, Alstom, EDF, SNCF... J'ai envie de dire que c'est un mirage aux alouettes, un peu comme d'habitude. Tout ce qui touche, ça se transforme en catastrophe. C'est pour ça que les 10 propositions qu'on fait, elles sont aussi là pour accentuer la nécessité d'avoir un réel débat au niveau de la France sur ces questions-là.
La CGT réclame un moratoire sur le plan de suppression d'emplois, un débat national sur l'avenir de l'industrie et une mobilisation à Belfort le 18 septembre.
Lisa Guyenne. En Russie, l'opposant numéro 1 à Vladimir Poutine et au Kremlin, Alexei Navalny, est retourné en prison sitôt après en être sorti. Il avait dû être hospitalisé après une grave réaction allergique selon les autorités russes. Son avocate affirme, elle, qu'il a été empoisonné, comme par hasard au lendemain d'une manifestation à la suite de laquelle 1400 personnes ont été arrêtées du jamais vu depuis 2012. Contestation qui s'inscrit dans le cadre des élections locales. Elles auront lieu en Russie le 8 septembre prochain. Les précisions à Moscou de Léo Vidal-Giraud.
Alexei Navalny est déjà de retour en prison. L'opposant russe arrêté mercredi dernier pour organisation d'une manifestation non autorisée avait été hospitalisé dimanche en fin d'après-midi. Il présentait des signes d'une violente réaction allergique, des plaques rouges sur le visage, les yeux gonflés, des abcès au cou, au dos et au torse. Pourtant, d'après ses proches, jamais auparavant il n'avait souffert d'allergie. Pendant toute la journée d'hier, ses médecins et son avocate ont été empêchés de lui rendre visite. Finalement admis aujourd'hui et examiné après de fortes pressions, ils décrivent des symptômes pouvant relever d'un empoisonnement à l'aide d'une substance chimique non identifiée et demandent à ce que son hospitalisation soit prolongée. Mais en début d'après-midi, l'hôpital dans lequel il se trouve a renvoyé Alexei Navalny en prison. Son médecin, Anastasia Vassilieva, dénonce une décision politique et dangereuse pour la santé de son patient.
Manifestement, Alexei a été renvoyé en prison sur un ordre venu d'en haut. Il n'est pas entièrement rétabli, il fallait le garder à l'hôpital. Le renvoyer dans un endroit où il a reçu une dose d'un agent chimique inconnu, sans la moindre analyse, ce n'est pas professionnel.
Ce n'est pas la première fois qu'Alexei Navalny est hospitalisé. En 2017, il avait dû être opéré d'un œil en Espagne après avoir été aspergé dans la rue de Moscou par un produit chimique inconnu. Il avait alors failli perdre la vue.
La Chine a condamné pour la première fois ce lundi un cyber-dissident, le fondateur d'un site chinois, à 12 ans de prison, l'une des peines les plus lourdes prononcées ces dernières années à l'encontre d'un opposant, Wang Qi, dans le collimateur des autorités depuis l'an 2000, a été reconnu coupable de divulgation de secrets d'État. Il avait révélé des violations des droits de l'homme. Il avait déjà été arrêté en 2016 après avoir reçu le prix Reporters sans frontières de la liberté de la presse. Optimiste, Boris Johnson, le nouveau Premier ministre britannique, est en Écosse aujourd'hui pour tenter de faire accepter le principe d'un Brexit dur aux différentes nations anglaises. Non seulement Boris Johnson croit en la possibilité d'un nouvel accord de retrait, mais aussi à un traité de libre-échange favorable au Royaume-Uni. On rappelle qu'Édimbourg avait voté pour le principe du maintien dans l'Union européenne et que Bruxelles exclut toujours toute possibilité de renégocier l'accord de Brexit. À Londres, les précisions de Marina Daras.
Que ce soit lors de sa rencontre avec la première ministre écossaise Nicola Sturgeon ou avec la chef des conservateurs écossais Ruth Davidson, Boris Johnson a eu affaire à deux de ses plus fervents opposants. Pour la première ministre écossaise, la position de Boris Johnson sur le Brexit conduit le pays vers un désastre. Elle a rappelé au nouveau premier ministre que les Écossais n'ont pas voté pour sortir de l'UE et encore moins pour en sortir de manière chaotique, sans accord et sans filet de sécurité. Et même dans son propre camp, le courant ne passe pas avec Boris Johnson. Ruth Davidson, grande critique du nouveau Premier ministre, craint notamment qu'une sortie prématurée sans accord de l'UE, comme le prévoit et le promet Boris Johnson, ne renforce la cause indépendantiste de sa rivale Nicola Sturgeon. Boris Johnson a rappelé qu'il ne souhaitait pas sortir de l'UE sans accord, mais qu'il ne rencontrerait pas les leaders européens tant qu'ils n'auront pas accepté de négocier un nouvel accord. Il lance donc une sorte d'ultimatum à l'UE qui a déjà dit qu'il n'y aurait pas d'autre accord que celui de Theresa May, un accord que Boris Johnson a déjà enterré. Son nouveau gouvernement travaille désormais sous l'hypothèse qu'un Brexit sans accord aura bel et bien lieu. Et pour beaucoup de commentateurs, une sortie sans accord pourrait avoir des répercussions désastreuses sur l'Union britannique.
Le rock alternatif, l'homosexualité et le détournement de signes religieux, un cocktail que les autorités ont bien du mal à avaler au Liban, où le groupe de rock alternatif Mashrou Leila est victime d'appels à la censure. Le groupe avait déjà été empêché de chanter en Jordanie, il avait fait scandale en Égypte également, son chanteur est ouvertement gay, ses textes sont engagés en faveur des LGBT, et le groupe donc est à nouveau victime des foudres de la censure politico-religieuse avant un concert prévu vu lors du festival de Byblos. Byblos où vit une importante communauté de chrétiens maronites. Ils sont montés au créneau après des messages du groupe sur Facebook. Sur place, à Beyrouth, la correspondance de Mélanie Houet.
L'affaire déchaîne les passions depuis une semaine au pays du Cèdre. Le groupe de musique libanais de rock alternatif Mashrou Leila, qui doit se produire sur scène le 9 août à Byblos, à une quarantaine de kilomètres au nord de Beyrouth, est accusé de porter atteinte au symbole du christianisme. Au cœur de la controverse, un article partagé sur les réseaux sociaux par le leader du groupe, ouvertement gay et activiste LGBT, Hamed Sino, illustré par un photomontage de la Vierge, dont le visage a été remplacé par celui de la star de la pop Madonna, et des paroles jugées subversives dans deux de leurs titres sortis en 2016, Idol et Jean. Je vais baptiser mon foie dans le Jean, danser pour exorciser les Jeans au nom du Père et du Fils, chante le musicien, connu dans le monde entier pour ses textes engagés contre l'oppression et l'homophobie. Interpellé par la Sûreté d'État, deux des membres du groupe actuellement présents au Liban ont été relâchés après 7 heures d'interrogatoire. La réaction des fans et pourfendeurs de la liberté d'expression ne s'est pas faite attendre. Les manifestations de soutien sur la toile se multiplient. La justice a rapidement mis le groupe hors de cause, mais il n'est toujours pas clair à 7 heures s'il se produira le 9 août. Le clergé maronite conditionne la tenue du concert à des excuses publiques des musiciens.
Et un rassemblement de soutien au groupe débute en ce moment dans la capitale libanaise. Le temps de demain mardi, attention au vent sur le nord-ouest, temps mitigé sur le centre du pays, plus ensoleillé à l'est et au sud. Côté température, les minimales iront de 14 à 18 degrés en général, 16 à 18 sur les bords de la Méditerranée. Les températures maximales sont en baisse, comptées de 18 à 23 degrés, entre 25 et 30 sur l'est du pays, entre 30 et 33 degrés en Provence. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.